On va peut-être pouvoir revenir sur la question du petit pont qui est l'humiliation suprême au football par l'intermédiaire des questions du public. Donc, s'il y a des questions. Dans le public.
Merci beaucoup pour ces trois interventions très, très intéressantes. Alors, j'avais une petite question pour Sonia Combe et une autre pour le dernier intervenant, Laurent. Laurent. La première question pour Sonia Combe, c'était sur, puisque vous êtes passé assez rapidement, enfin je suis arrivé en retard, alors peut-être que j'ai loupé quelque chose, sur l'évolution de la répression de la Stasi après la chute du mur de Berlin. Vous avez évoqué les questions de contrôle et de surveillance qui constituaient l'essentiel de l'activité de la Stasi la diminution de l'activité de répression, notamment après la chute du mur, si j'ai bien compris. Je voulais savoir ce qui restait quand même de cette activité ordinaire de répression entre 61 et 89. Pour Laurent, non, c'était une remarque un peu dans le prolongement des discussions d'hier sur la question de l'oisiveté, les jeunes de milieu populaire et l'oisiveté. Ce que vous évoquez me fait penser aussi à certainement une des dimensions qui est à l'œuvre dans la mise en place dans les années 90-2000 des multiples contrats temps libre, contrats éducatifs locaux, contrats en tout genre, qui visent à quadriller d'une certaine manière le temps des jeunes de milieux populaires plutôt ciblée, avec cette idée que l'oisiveté effectivement est au principe de la déchéance corporelle, de l'alcoolisme, je cite Nicolas Bavrez, un essayiste qui s'était aventuré à qualifier ce que représentait le temps libre pour les classes populaires, l'oisiveté, l'alcoolisme, la déchéance corporelle, l'intempérance, et c'était un texte pour lutter contre l'idée de la réduction du temps de travail en fait. Et que le temps libre pour les milieux de milieux favorisés, c'était le luberon, la tapenade et l'épanouissement intellectuel. Bon, bref. Donc effectivement, il y a un discours très fort dans les années 90 sur l'oisiveté comme étant vraiment la mère de tous les vices pour les classes populaires. Donc c'était simplement pour rebondir sur l'idée que cette idée de l'oisiveté et de lutte contre l'oisiveté s'est actualisée et déclinée dans les quartiers populaires ces dernières années. Voilà, merci.
On répond tout de suite ou oui,
oui, s'il n'y a pas une question immédiate.
Rapidement, oui, je suis passée rapidement sur l'étape qui va de la répression à la surveillance, parce que ce n'était pas vraiment le sujet. C'était juste, je voulais revenir pour vous redonner un peu le cadre, pensant que vous n'avez pas évidemment ça en tête. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où le mur a été construit, c'était le bénéfice du mur, si je puis dire. Du coup, la répression a été moindre, parce que l'essentiel de la répression avant la construction du mur, c'était d'empêcher les départs. Il faut quand même comprendre que la RDA, c'est un état pathétique, dépendamment de tout ce qui a été fait de mauvais. C'est pathétique, cette Allemagne qui a essayé d'exister à côté de cette autre Allemagne qui recevait des crédits partout, qui sentait de plus en plus l'opulence. Et il y avait cette petite RDA qui devait payer, mais pour les crimes nazis sans arrêt à l'Union soviétique, démanteler ses usines, envoyer ses rails de chemin de fer, tout ça pour payer. Et tandis que l'autre recevait de l'argent du plan Marshall. Et donc, il y avait ce déficit de main-d'œuvre. La RDA a lutté pendant 40 ans pour empêcher sa main-d'œuvre de partir. Et le mur a été un soulagement. Je ne le défends absolument pas sur le plan humain et de la liberté de circulation, qui était une liberté individuelle fondamentale, on en a tous convaincus. Mais c'est vrai qu'il avait cette raison-là. Et à partir du moment où le mur a été construit, on a un peu respiré. Mais c'est-à-dire que, bon, évidemment, on ne pouvait plus en sortir. On ne pouvait plus sortir, c'était difficile, etc. Mais du coup, d'ailleurs, ça a eu pour bénéfice immédiat, c'est que les Allemands de l'Est ont commencé à comparer leur niveau de vie, non plus à celui des Allemands de l'Ouest, qui les narguaient tous les jours avec leurs bananes, mais ils ont commencé à comparer leur niveau de vie avec celui des autres pays de l'Est. Et ils se sont rendus compte que, ma foi, ils étaient assez bien lotis. Vous voyez, donc, déjà, ça a amélioré. Alors, ensuite... Donc la traque contre le candidat potentiel à l'émigration a baissé. Donc c'était un des premiers objets de la répression, c'était ça. C'est-à-dire quand on vous prenait quelqu'un, vous avez dénoncé parce qu'il savait que vous alliez passer à l'Ouest. La répression, c'était évidemment 5 ans, 10 ans à Bautzen. Je ne sais pas quelles étaient les conditions de la prison de Bautzen, mais je crois qu'elles n'étaient pas très sympathiques. Et à partir de 62, on baisse... Ça, c'est alors une économie énorme pour l'État est-allemand. On décide de faire baisser le nombre de prisonniers dans les prisons. Ça coûte trop cher. D'ailleurs, quand ils y sont, c'est les dissidents, généralement, on les vend à l'Allemagne de l'Ouest, parce que quand même, on reçoit des devises. Mais en même temps, on baisse donc le taux de prisonniers. Et de plus en plus, la Stasi perd sa fonction répressive au bénéfice, au profit de sa fonction de surveillance qui, comme je le disais, finalement devient une fin en soi. Elle n'a plus d'autre but que ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de répression, entendons-nous. Hein. Je ne suis pas en train de dire que la Stasi ne réprimait plus. Mais je suis convaincue qu'on ne peut plus parler de dictature. L'Allemagne de l'Est l'a qualifié comme un système de dictature pour les années 80, à partir des années 70-80. C'est une prison, c'est certain, on ne peut pas en sortir. À l'intérieur de la prison, il y a une sorte de démocratie. Et même d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans les dossiers que je voyais de la Stasi, quand la Stasi veut faire chuter quelqu'un sur le plan idéologique, hein, puisque c'était les intellectuels, encore une fois, et académiques, elle dit, on peut pas aller, le syndicat va se poser, bon, pour les licenciements par exemple. Donc vous êtes là, vous dites, où est-ce que je suis? C'était un état de droit ce pays? On m'a toujours appris que ce n'était pas un état de droit. Effectivement, ce n'était pas un état de droit, mais il y avait du droit, ça fonctionnait. Alors, dans les années 80, la répression vise essentiellement, d'abord il y a très peu de dissidents en Allemagne de l'Est, chose sur laquelle on réfléchit très peu, il y a eu une sorte d'adhésion quand même à ce système. Ce n'est pas uniquement avec l'armée, la police, la Stasi, etc. Hein. Donc, il y a un taux de dissidents extrêmement faible, beaucoup plus faible que dans les autres pays, comparé avec la Pologne et la Hongrie, par exemple. Mais sont visés les sans-noms, les gamins un peu rebelles, les jeunes un peu... Oui, c'est essentiellement ça. La meilleure protection contre la Stasi, c'était de se faire connaître comme dissident. À partir de là, vous étiez connu, repéré à l'Ouest, votre nom apparaissait dans le Spiegel, vous étiez quasiment protégé. Hein, et donc la fonction répressive n'a pas disparu, mais elle a énormément diminué. Hein, c'est ça. Et elle s'applique essentiellement à ceux qui n'ont absolument, dont les parents sont dépourvus de tout capital politique. Entendons-nous, dont les parents ne sont pas au parti, et évidemment de capital intellectuel, etc. Voilà.
Est-ce que je peux juste ajouter une chose générale, parce que ça rebondit là-dessus, sur les enjeux de mémoire par rapport à la Stasi, c'est qu'en Allemagne, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un mouvement d'opposition assez fort à la cybersurveillance, à la surveillance sur Internet, et un des slogans assez fédérateurs, c'est « Stasi 2.0 ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Voilà, donc pensez-y.
Laurence, tu voulais répondre à la partie de la question qui te concernait.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la question, effectivement, que l'oisiveté, cette pratique, la étiquette, stigmatise notamment les milieux populaires. Et l'idée est claire, et d'en demander énormément à ces populations-là, plus que nous tous réunis. C'est-à-dire que ces fameuses 60 heures d'activité, ces 20 heures de sport par semaine, ne serait-ce que pour parler du sport, c'est une véritable aberration. Qui fait 20 heures de sport par semaine aujourd'hui? Et puis quand vous voyez l'état dans lequel rentrent les mineurs en détention, hein, ce ne sont pas des sportifs de haut niveau, hein, il y en a qui ont vécu dans la rue pendant un certain temps, qui sont pour la plupart, enfin pas pour la plupart, mais pour on va dire, la moyenne, ils sont un peu toxicomanes ou polytoxicomanes, etc. Donc, ils sont dans un état de santé qui, parfois, est difficile. Et on va leur demander, on va les mettre dans 20 heures de pratique sportive directement, comme ça. Donc, on va leur faire faire du foot, de la muscu, on va leur mettre du cirque, on va leur... C'est, effectivement, au début, ça paraît, pour les mineurs, ça paraît être le Club Med. Mais rapidement, le corps ne suit plus et donc on a des blessures, hein, mais des détenus, mais aussi des professionnels. Hein, récemment, en rugby, donc, sur ce fameux terrain extérieur que l'on voit là, une fracture ouverte au tibia du moniteur de sport qui essaye de suivre le rythme, mais c'est très difficile. Et d'ailleurs, on a des résistances quand même de la part des professionnels par rapport à cette hyperactivité. C'est-à-dire que, je ne l'ai pas dit parce que je n'ai pas le temps, mais vous avez des unités de vie. Alors, peut-être que je ne vais peut-être pas le montrer, mais si je vais me lever, je vais le montrer, ça ira plus vite. Comme ça, je fais le lien avec l'architecture. Donc, effectivement, vous avez donc la détention commence là. Hein. Donc, vous avez la cour centrale ici. Hein, donc, vous avez l'ensemble des unités de vie qui sont là. Donc, vous avez l'unité arrivant, la 1, la 2, 3, 4, 5 et filles. Et donc, toutes les fenêtres des cellules donnent sur cette cour centrale dans laquelle se passent tous les mouvements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort et on va quelque part, tout le monde le voit. Hein, c'est-à-dire que les surveillants, effectivement, ont un visu sur les mineurs, mais les mineurs ont également un visu sur les surveillants. C'est-à-dire que le panoptique est quelque part presque inversé aussi. C'est-à-dire que les surveillants sont surveillés. Et dans chaque unité de vie, on a des patios, on les voit ici, là, et des espaces de détente hein, qui permettent aux jeunes de passer leur temps collectif. Et si vous voulez, on a presque une volonté politique qui est incarnée dans les murs, quoi. C'est-à-dire qu'on a une construction architecturale qui a pour but de valoriser les temps collectifs. Hein, le gymnase sportif est ici, ici vous ne le voyez pas, mais c'est des fenêtres, hein, c'est-à-dire que tout est vu. Quand on est au gymnase et qu'on passe ici, tout le monde le voit. Voilà. Et donc on est effectivement sur cette idée d'une architecture qui va valoriser des temps collectifs constants, hein, réellement, et certains professionnels, donc chaque unité a un régime de détention particulier, et l'unité 5 qui est censée être le régime de confiance, les bons élèves, n'avaient pas du tout de temps de cellule, et ils en ont rajouté. À la fin de la journée, quand ils finissent la journée d'activité, ils ont rajouté une heure d'encellulement obligatoire contre l'avis de la direction qui voulait des temps collectifs constants. Et donc il y a eu une bataille là, qui s'est faite. Et même donc, les professionnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, etc., se sont battus pour réinstaller des temps d'encellulement parce que le mineur, quand il arrivait de cette journée d'activité, était survolté. N'en pouvaient plus et ils avaient des problèmes de sécurité puisqu'ils les prenaient directement là dans la foulée en collectif au repas etc et du coup ils ont imposé à la direction donc il y a eu une espèce d'effet de vraiment important un effet de retour qui a été assez important ils ont imposé à la direction une heure de détention obligatoire à la rentrée qui permet de poser entre guillemets les esprits pour reprendre leur terme hein, bien sûr et ensuite de pouvoir commencer un nouveau collectif plus stable mais effectivement la directrice ne supporte pas et l'ensemble de l'administration pénitentiaire ne supporte pas de voir un jeune en cellule et en plus le pire c'est que l'ensemble c'est incroyable l'ensemble des fenêtres de la direction donne sur l'espace de détention ce qui fait qu'on le voit on voit un jeune en cellule. Et donc, du coup, moi, j'ai plusieurs fois le capitaine, avec son tête, ce qu'on appelle un tête, le talkie-walkie, hein, a dit, bon, le moniteur de sport va prendre ce jeune, là, il m'énerve, on voit sa tête en cellule, il n'a pas à être en cellule, il faut qu'il soit en activité. Prends-le en activité, et voilà. Et s'il refuse, il est sanctionné. Donc, on a tout un système de sanctions qui se met en place jusqu'à... alors, ce qui est marrant, c'est que la sanction passe par l'enfermement. C'est-à-dire qu'on les oblige à faire des temps collectifs, et si jamais ils ne veulent pas, à ce moment-là, on les enferme. Mais parce qu'ils ont la télé individuelle dans leurs cellules, ce sont des cellules individuelles, comme l'a dit tout à l'heure Grégory, ils ont des cellules de 10 mètres carrés, avec une douche individuelle, un bureau, un lit et une télé, mais par contre, on les prive de télé quand même. Comme ça, voilà. Donc on est...
C'est des questions pour Sonia Combes sur Donc sur la question de la répression de la Stasi, donc l'idéal de que chacun soit le flic de l'autre, est-ce que ça a été étudié par d'autres polices mondiales? Parce qu'on peut penser que c'est un petit peu l'idéal professionnel de toute police. Et est-ce que ce savoir-faire qui avait pu être accumulé par la Stasi a été réutilisé ailleurs? L'autre chose, c'est sur... Donc vous avez commencé à dire qu'ils savaient tout ce qui allait se passer, ils n'ont rien pu éviter. Alors c'est ce qui avait été dit aussi à propos de l'attentat contre les tours jumelles en 2002. C'est-à-dire que toutes les informations étaient là, simplement il fallait pouvoir les décrypter, les hiérarchiser, voire traduire les phrases en arabe, ce qui était un peu compliqué pour les gens du FBI et des CIA, pardon. Et voilà, c'est, par rapport à une image de panoptique, c'est toujours ça qui est rassurant, c'est que il y a un moment donné où ils ne comprennent rien. J'ai pas bien compris sur l'opposition délation dénonciation, parce qu'en général en France on passe de l'un à l'autre facilement, notamment quand on parle de la période de l'occupation. Est-ce que c'est une question d'efficacité? Donc j'ai cru comprendre que c'est une question d'efficacité policière, d'éviter ceux qui apportent une trop grande jouissance à la dénonciation, alors que les autres qui font ça par esprit civique sont plus sympathiques, je ne sais pas exactement. Et alors, sur la dissidence, donc, moi je me rappelle vaguement encore du nom des groupes, mais vous avez dit qu'ils étaient extrêmement minoritaires. Quel était le consensus social qui tenait? Parce que moi j'étais dans des groupes politiques où il y avait l'idée qu'il y aurait une révolution politique un jour dans ce genre de pays. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas eu lieu et que la population n'a pas été aussi... Il devait y avoir une analyse totalement fausse de ce qui se passait à l'intérieur de ces populations-là. Est-ce que les études historiques permettent de montrer pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi les mobilisations populaires qui quand même ont été importantes à la fin de l'Allemagne de l'Est ont abouti surtout à la mise en place d'un régime, enfin d'une absorption par l'Allemagne de l'Ouest sans conflit politique majeur, si j'ai bien suivi. Merci.
Oui, là, ça demanderait des heures de réponse. Alors, rapidement, sur quoi je ne peux pas vraiment répondre ici, c'est la faiblesse de la dissidence en Allemagne de l'Est. Moi, j'ai une thèse sur laquelle je travaille, mais bon, je peux vous la dire en une phrase, mais elle ne vous convaincra probablement pas, parce que je pense qu'il y avait un contrat tacite entre les dirigeants et la société est-allemande, contrat qui ne pouvait pas durer très longtemps, mais un contrat qui reposait sur le constat suivant. Les dirigeants est-allemands étaient tous, à quelques exceptions, mais très faibles, étaient tous d'anciens antifascistes qui étaient passés soit par l'Union soviétique, soit par les camps de concentration, soit par l'exil à Mexico ou en Angleterre ou en France. Mais néanmoins, ils n'avaient rien à voir avec le passé nazi. Or, la société, elle avait à voir. La société était composée de gens qui avaient suivi Hitler. Il y avait une méfiance à l'égard du peuple en Allemagne de l'Est qui fait qu'en 1953, précisément quand il y a eu la révolte de la Stalinallee, vous avez des intellectuels comme Brecht et les autres qui se sont tus. Non pas qu'ils aient apprécié de voir les tanks soviétiques dans les rues de Berlin-Est, mais s'il y avait une chose dont ils avaient peur, c'était le peuple. Le peuple, on en a parlé dans les discours de dimanche. Mais sinon, ce peuple, c'était celui qui, quelques années auparavant, avait suivi Hitler. Donc, une méfiance énorme. Et ce contrat tacite reposait sur la chose suivante. Le peuple disait, on vous fout la paix avec votre passé, mais vous nous laissez faire en matière de politique. Et par ailleurs, je pense qu'il y avait le rôle de l'Église évangélique, une Église luthérienne, qui a contribué, en un sens et inconsciemment, mais à affermir le pouvoir politique en entretenant le sentiment de la faute. Et de ce point de vue-là, la RDA, à mon avis, était une sorte de purgatoire. Tandis que les Allemands de l'Ouest, ils tournaient la page. En Allemagne de l'Est, on était dans le purgatoire. On payait pour ce qu'on avait fait. Bon, c'est une explication qui demanderait, je vous la livre parce qu'on me posait la question, mais c'est quelque chose qui demanderait évidemment une beaucoup plus grande explication. Alors, est-ce que le savoir de la Stasi a été réutilisé ailleurs? Mon Dieu, non, parce que maintenant, on a des méthodes tellement plus sophistiquées. Mais ce savoir de la Stasi, il faut quand même faire attention à une chose, c'est que... non, le panopticon, il ne faut pas tout mélanger. Le panopticon, ce n'est pas ce dont rêve tout policier. On est dans un état, à l'heure actuelle, où on voit très bien, d'ailleurs, les réductions de liberté individuelle, liberté publique. Individuelle, c'est autre chose, mais publique, on le voit. Ce n'est pas le rêve de la police de Sarkozy aujourd'hui de nous avoir tous dans le collimateur. Non. Ça, c'est vraiment ce qui distingue, quand même, ces États communistes des États démocratiques, oui. C'est que la police, elle a une ambition qui est de surveiller tout le monde. C'est pas vraiment la même chose. Alors, se servir des pratiques de la Stasi, vous savez, c'était des pratiques jusqu'aux nouvelles technologies, des pratiques extrêmement classiques, simplement qu'elles étaient largement étendues. Là, je travaille maintenant, comme je disais tout à l'heure, sur les dossiers du FBI, surveillance des antifascistes allemands dans les années après la guerre, au moment de la guerre froide. Hein. Les rapports du FBI qui suivent les antifascistes allemands ressentent des rapports de la Stasi, ils sont aussi ennuyeux, ils accumulent des choses insignifiantes, ils remplissent du papier, etc. Et ils surveillent jusqu'aux lectures de ces gens, exactement comme la Stasi. Ça ne sert à rien, mais on ne sait jamais, ça peut servir un jour. Voilà, ce sont des pratiques qui sont extrêmement, extrêmement classiques. Il y avait des pratiques qui sont la propre à la Stasi, qui doivent être utilisées par d'autres polices, mais ça, j'en sais rien, c'est les pratiques de ce qu'ils appelaient Zersetzungsmaßnahmen. C'est les procédures de répression psychologique. C'est-à-dire ce qui ne laisse pas de traces. C'est-à-dire que, c'était la technique des cambriolages que j'ai souvent expliqué, qui n'était pas très utilisée, mais qui a eu lieu, à savoir que quand on voulait détruire un dissident, surtout dans les années 80, c'est le mouvement pacifiste qui a été très important, hein. Quand on voulait détruire un dissident, il y avait la technique du cambriolage qui était bien supérieure à son arrestation et sa mise en prison, où il coûtait cher en prison. Il suffisait qu'on cambriole une fois chez lui dans son appartement et on subtilise des objets sans aucune importance. Bon, du genre les gants de toilette, le cendrier, je ne sais pas. Bon. Voilà, alors, ça veut dire que le soir, le couple se rendait compte que tiens, les torchons avaient disparu. Mais où tu as mis les torchons? Je ne sais pas, moi j'ai mis les torchons, mais j'ai mis l'habitude, les torchons, etc. Mais quand les torchons ont disparu, qu'est-ce qui se passe? Les torchons, bref. Voilà. Deuxième cambriolage, toujours sans laisser de traces, hein, on subtilisait les cendriers. Mais où tu as mis les cendriers? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous ne pouvez absolument pas soupçonner quiconque de vous voler vos torchons, vos cendriers. Il n'y a aucune trace d'effraction, il n'y a rien. Bon. Au troisième cambriolage, où là on volait, je ne sais pas, les gants de toilette, c'est des choses d'objets très intimes. En principe, le couple se séparait. Et un couple qui se sépare, c'est un couple qui est deux fois moins nuisible sur le plan politique. Dissident, surtout dans les pays de l'Est, j'assure, il fallait être entouré pour résister à la pression, à la peur, etc. On avait besoin d'être entouré. Un couple résiste plus facilement, si je puis dire, à la peur, à la pression, aux intimidations qu'un individu. Voilà, dénonciation, délation, c'est une distinction qui est opérée en français, à savoir la dénonciation, c'est sous la Révolution, hein, c'est un acte civique, vous dénoncez l'ennemi, celui qui est contre la Révolution, le contre-révolutionnaire, hein, c'est un acte citoyen, la délation, c'est pour un profit personnel. C'est-à-dire que vous allez faire de la délation pour, sous l'occupation, pour récupérer l'appartement des Juifs d'à côté. Alors, on ne fait pas toujours la distinction dans le langage courant, mais cette distinction existe dans le droit. Et la Stasi, donc, préférait la dénonciation, acte civique. La Stasi se pensait une autorité morale. Attendez, ce n'était pas n'importe quelle police, même si elle pouvait avoir des pratiques immorales. C'était une police qui défendait un régime, un État qui visait l'égalité. Oui, c'est différent. Il faut prendre ça en compte, ce qui ne dédouane pas des atteintes aux droits de l'homme. Voilà.
Oui, j'ai une question pour Laurent Soligny. Alors, à juste titre, dans ton titre, tu parles de contrôle éducatif. Donc, c'est un établissement pénitentiaire, mais dans une certaine mesure, moi, ça m'a fait penser à une école. Et du coup, si on pousse un petit peu la comparaison, on a retrouvé notamment un usage poussé de l'emploi du temps. Et puis, tu as parlé aussi de socialisation méthodique des jeunes générations. Et donc, si on pousse un petit peu cette analogie, j'ai deux questions. Je demandais si tu savais comment cette discipline avait été construite. Bourdieu parlait notamment d'inconscient d'école. Donc, est-ce que, par exemple, pourquoi il y a ce découpage sport, enseignement, loisirs socio-éducatifs? Est-ce que, par exemple, tu as trouvé des archives? Enfin, comment cette discipline a été produite politiquement, en fait? Alors là encore, on pourrait faire un usage de Durkheim de l'éducation comme idéal moral, en fait. Et puis, ma deuxième question, qui est plus, un peu plus bourdieusienne, en fait, c'est si on parle de l'idée que l'école est une machine à classer, donc elle produit des classements, et donc, en fait, elle est une sorte d'espace. Je me demandais si tu savais comment, finalement, quels sont les profils. Alors, je ne sais pas si tu as comme ça les origines sociales, les trajectoires scolaires, les histoires biographiques, etc. Quels sont les profils qui s'intègrent le mieux à cette discipline? Quels sont les exclus? Enfin, voilà, quel est le système, en fait, de hiérarchique, quoi.
D'accord. Alors, effectivement, donc tu parlais de... Ça te faisait penser à l'école, ce type de structure. Il faut savoir que après 1945, ont été mises en place des structures qui, pas dans l'architecture, mais dans le mode de fonctionnement, ressemblaient trait pour trait à ces EPM, et on a appelé ça des prisons-écoles. D'ailleurs, Badinter, quand ce type de structure ont commencé à être pensées, etc., a parlé d'écoles entourées de murs. Hein, donc on est dans l'idée effectivement de générer une espèce de prison-école, de prison éducative, d'allier un enfermement avec un type d'éducation effectivement qui se rapproche énormément du scolaire. D'ailleurs, il y a un découpage en trois domaines d'activité, mais il faut savoir que celui qui prévaut, c'est l'école. On a une école à l'intérieur de la détention et on a une équipe d'enseignants, donc de 7 enseignants spécialisés qui sont totalement détachés, donc qui font partie de l'éducation nationale, mais qui sont détachés à l'intérieur de cette structure. Hein, donc on a des conseils de classe, etc. On a vraiment une école à l'intérieur de la détention. Hein, et l'ensemble des plages horaires de 9h du matin jusqu'à 15h de l'après-midi sont réservés aux scolaires. Les deux autres domaines d'activité, c'est-à-dire le socioculturel et le sportif, devant se caler sur ce qui reste. Donc on a une prévalence de l'école. Au niveau de la construction de cette discipline, de ce fameux découpage, oui, j'ai des éléments, puisque je suis allé m'entretenir avec les penseurs du projet, hein, ceux qui l'ont construit, qui l'ont pensé. Donc comment ça s'est passé, ce truc-là? Déjà, ça s'est passé très très vite. Ce qui ressort des entretiens, c'est que ça s'est passé très très vite. Il fallait que ça ouvre au moment où Nicolas Sarkozy arrivait au pouvoir. Hein, et donc il fallait vraiment que ça ouvre vite, hein, et d'ailleurs tout a été fait un peu dans l'urgence, et donc ça s'est passé sur la base de 2 ans, une première année, donc des tables rondes entre corps de métier, hein, l'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse, l'éducation nationale, etc. Et la deuxième année, regroupement de tous ces corps de métier pour parler des thèmes, donc l'architecture, etc. Pour quelles raisons on a eu ce type de découpage et ce type de mise en place de la discipline? Effectivement, il y a toujours la même idée d'oisiveté, c'est-à-dire le jeune ne peut pas rester, il fallait rompre avec ce qui se passe en quartier mineur. Le jeune ne peut pas rester en cellule à regarder la télé toute la journée, c'est pas possible, c'est plus envisageable. Il nous faut des jeunes actifs, productifs, hein, une technologie positive du pouvoir, hein, pour reprendre les termes. Et pourquoi ces trois domaines d'activité? Et pourquoi 20h, 20h, 20h? Pourquoi 20? Pourquoi pas 15, etc. Alors, a priori, ça, enfin, sur les retours que j'en ai eus, ça s'est fait sur des bouts de table. Rapidement, on a dit bon, on va mettre 20 heures d'école et on va équilibrer. On va mettre 20 heures sport, 20 heures de socio-éducatif. Mais ce qui transparaît à l'intérieur des entretiens et ce qui paraît être une ligne directrice, c'est l'idée de casser cette idée qu'effectivement, alors attendez, on prend vos jeunes, on veut les socialiser. Alors pour les socialiser, on les sort de la société et on les met dans une prison. Là, il y avait un paradoxe, il y a un truc qui n'allait pas. Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On s'est dit, mais attendez, on prend vos jeunes, mais on les prend en charge vachement bien. On refait une société à l'intérieur de la prison. Et donc, on va prendre les domaines d'activité qui paraissent essentiels pour un jeune adolescent, entre guillemets, des domaines d'équilibre. Un jeune, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'école, il fait du sport, il va faire un peu de musique, un peu de théâtre, il va aller voir de la culture, etc. Donc, on est bien sur un type particulier de jeune adolescent, hein. Hein, donc, mais cette idée de ces trois domaines d'activité sont là pour recouper de standards entre guillemets sociétaux, quoi. Hein, c'est-à-dire on reprend les activités qu'on va trouver un peu dominantes et on va les mettre de manière caricaturale, comme ça, plaquées sur un emploi du temps exhaustif. Voilà. Et pour ta dernière question sur l'école comme machine à classer et quel profil s'apparente mieux à ce processus que d'autres, enfin ce dispositif, pardon. Alors, il y en a qui... je l'ai dit tout à l'heure, il y a une unité, l'unité 5, qui est l'unité de confiance, c'est l'unité des bons élèves. C'est ceux qui respectent. Par ailleurs, c'est ceux qui sortent, qui ont du mal à sortir en activité parce que dès qu'ils sortent, ils se font lyncher par les autres. Voilà. Mais donc personne ne veut y aller dans cette unité-là. Il y a une console de jeu et tout pourtant, hein, mais personne ne veut y aller parce qu'il y a un confort de détention qui est meilleur, la carotte, le bâton, toujours pareil. Hein. Mais en même temps, quand un jeune y va, il sait que derrière, c'est compliqué. Donc au niveau des profils, c'est difficile de catégoriser, quoi. C'est difficile de dire c'est plutôt tel profil qui se conduit bien, etc. Ce que j'ai pu observer, c'est que les jeunes instrumentalisent le système. En ce sens qu'on s'aperçoit que quand ils arrivent en détention, ils ont du mal à se l'approprier. Ils vont faire des adaptations secondaires, dirait Goffman, de l'évitement, du contournement, etc. Mais plus on se rapproche de sa sortie ou quand il met en place une permission de sortir, etc., à ce moment-là, il va avoir un comportement plus lisse, qui va rentrer plus dans les clous. Après, il n'y a pas de profil particulier. Si on a eu quelques... Bon, il faut savoir qu'effectivement, la population qui se trouve dans ce type d'établissement est d'origine plutôt fortement précarisée, hein, bien sûr. Mais il y a quand même... donc, on est sur des origines ethniques, donc plutôt maghrébines, etc., ou des populations de type bohème... Mais on a quand même des profils qui sont des enfants d'ingénieurs, etc., qui arrivent dans ce type de structure-là et qui, eux, se conforment très bien à ce type de, entre guillemets, de discipline, puisqu'ils n'ont pas été déscolarisés, etc. Donc il y a une espèce de poursuite de ce qu'ils faisaient un peu à l'extérieur. Mais par contre, ils vivent très mal leur détention par rapport au collectif, puisqu'ils ont tendance à se faire victimiser, qui est étiqueté, etc. Et du coup, des fois, on assiste à des refus, mais des refus qui sont là par peur de rencontrer ses pairs à l'intérieur de temps collectif. Et d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure de... Il y a une violence très forte, c'est-à-dire qu'il y a certains jeunes, on va les obliger à aller en activité, mais le jeune dit « mais si je vais en activité, là, je vais me faire taper ». Et vous n'allez rien pouvoir faire parce que les jeunes sont assez malins pour faire ça dans les moments creux, etc. Et donc, il y a une espèce de difficulté là pour le jeune réellement à vivre dans ce type d'espace. Mais il n'y a pas vraiment de profil. J'ai pas catégorisé, mais c'est vrai que des jeunes qui sont issus de classes moyennes, etc., on n'en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns, ont tendance à mieux respecter ce type de dispositif. Les filles aussi. Les filles ont tendance
c'est
à...
Mixte.
C'est mixte, oui.
Ouais. C'est le club Med, effectivement.
Oui, c'est mixte. Et les filles, oui, ont tendance à un peu plus respecter ce type de, ouais, de contraintes.
Donc il y aurait du soleil et des nanas. On a une dernière question, je pense, parce qu'il faudrait...
Ça, c'est l'ouvert, en plus. Hein,
il faudrait passer question de la statistique publique ensuite. Donc une dernière question.
Donc c'est deux petites questions pour Grégory, en fait. La première, c'est par rapport à ce que tu nous as dit, là, le plafond de 120%. Est-ce que j'étais surpris, je pensais qu'il y avait ce genre d'indicateur, on va dire, aussi pour les prisons en général. Est-ce que je dis n'importe quoi ou est-ce que c'est que pour les prisons PPP, là est-ce qu'il poserait effectivement un vrai problème Et l'autre question, c'est plutôt... Quand tu nous as présenté un petit peu ces prisons, on a l'impression qu'il y a au sein de l'institut pénitentiaire, il y aurait deux types de métiers, ce qu'on appellerait le cœur de métier qui serait la surveillance, etc., et puis ce qu'on appelle maintenant dans le jargon les fonctions support, c'est-à-dire la cantine, je ne sais quoi, le linge, le machin, etc. Et cette pratique de différencier le cœur de métier et les fonctions support, c'est quelque chose qui s'impose de plus en plus, en tout cas dans l'ensemble de la fonction publique. avec l'idée que bah, toutes les fonctions support, bon, bah, autant le faire faire par le privé, et puis le cœur de métier, bah, voilà, ça c'est notre métier, on sait le faire, donc faisons-le. Et je voulais savoir si, au sein des, de l'institut, enfin dans la, l'institution pénitentiaire, il y avait eu des luttes syndicales sur ce sujet-là, parce qu'il y a d'autres établissements dans les hôpitaux, des machins, où on voit qu'il y a eu dans un premier temps des conflits qui ont pas forcément, enfin, qui ont souvent perdu d'ailleurs, mais en tout cas il y a eu des conflits. Est-ce que là dans ce dans cette institution il y a eu conflit sur ces, ces, ces questions de séparation du cœur de métier et des fonctions support?
Donc une réponse rapide.
Oui, j'y vais vite, en plus tu dois parler. Alors oui, pour le plafond, les 120% c'est que pour les prisons dites semi-privées, sinon il y a évidemment zéro plafond, hein. On peut aller jusqu'à 400% d'occupation, c'est-à-dire 4 fois plus d'individus que de places, et mettre des matelas par terre pour, donc ça, il n'y a aucune espèce d'obligation de sanction en cas de manquement, et la surpopulation peut être exponentielle juridiquement, ça ne pose absolument pas de problème. Ensuite, sur les fonctions support, alors je pense que cette division binaire, elle, elle peut essayer de prendre corps, mais le problème c'est qu'elle se superpose à déjà deux sortes de divisions plus fragmentaires, et donc elle, elle serait difficile à s'imposer. La première, c'est une division administrative, c'est-à-dire il y a déjà une division entre personnel de surveillance, personnel administratif et technique, personnel de direction. Il y a cinq grandes divisions là-dedans, et ça c'est inscrit dans les organigrammes, c'est inscrit dans les statuts professionnels et tout, donc ça structure quand même les représentations du métier, et c'est en cinq groupes plutôt que deux. Et il y en a une autre, c'est qu'il y a des cloisonnement professionnel fort, notamment entre le médical, qui est, voilà, qui est régi par d'autres normes déontologiques, etc., qui est très cloisonné par rapport au reste. Et alors, eux, fonction support, ils auront du mal. Donc, en fait, c'est plutôt effectivement des normes professionnelles d'activité assez différentes, surveillance, éducation, etc., avec quand même parfois des... un peu de porosité, c'est-à-dire des surveillants qui font aussi un peu de l'éducatif et des éducateurs qui font un peu de la surveillance. Bon, là, voilà, y a des, ça se mêle un peu comme ça.
Moi, j'ai une question à poser à tous les deux. Je peux ? Voilà, vous, vous faites du terrain, tous les deux, vous allez dans les prisons ? Non, pas trop.
Enfin, pour une recherche précise, mais pas généralement, non.
Mais vous avez donc l'accord, vous, avez, vous êtes en accord avec le ministère de la Justice, vous me disiez que vous avez votre thèse, vous la faites avec le...
Je suis financé par le ministère de la Justice et j'ai carte blanche dans un des EPM, c'est-à-dire que je peux
d'accord,
y aller.
D'accord, oui, vous êtes financé par ça. Et vous, vous êtes financé aussi par la justice?
Bah, moi, je suis titulaire, donc ça va, mais
oui, vous êtes
plus généralement, il n'est plus très difficile de rentrer dans les prisons pour faire du terrain, c'est-à-dire... Il devient difficile de faire un article de méthodologie pour dire oh là là, j'ai vraiment investi un milieu extrêmement opaque, difficile, etc. Pour en rajouter un peu dans la capacité oui, à entrer d'accord. dans des milieux difficiles, on fait aussi ça dans le milieu judiciaire. Bon, moi j'avoue que maintenant ça me fait un peu rigoler, mais il devient difficile d'avoir une autorisation quand il y a un problème particulier dans un établissement. Si vous envoyez une lettre à la direction d'administration pénitentiaire et qu'il y a un jeune qui vient de se suicider, on va pas vous dire oui. S'il n'y a pas de problème particulier, mais ça ne veut pas dire forcément que l'établissement tourne non plus super bien. Il y a eu maintenant du terrain dans un nombre vraiment varié d'établissements, y compris de chercheurs vraiment chevronnés, dont on sait qu'ils ne sont pas spécialement ni conformistes, ni bienveillants à l'égard de l'administration pénitentiaire. Donc il y a une ouverture vraiment réelle oui. là-dessus. Et ensuite, il y a un changement de la socialisation professionnelle qui fait que le directeur de l'EPM de Quievrechain, par exemple, qui est un autre EPM, lui, il a la recherche super. Hein. Venez les gars.
Mais est-ce que vos travaux, ils sont intéressés par vos travaux? Est-ce que vous trouvez, est-ce qu'il y a des incidences? Est-ce que vos travaux ont une répercussion? Enfin, je veux dire, c'est quand même le problème, là. Il faut...
je réponds avant toi. Je pense que c'est quand même un des secteurs où l'écart entre les préoccupations du sociologue et les préoccupations des gens de terrain est très profond, très oui. large. Mm-hmm. Donc, je pense qu'un surveillant, par exemple... se retrouve pas tellement là-dedans parce que c'est trop abstrait, trop intellectuel, évidemment trop critique dans un certain nombre de cas. Faudrait voir avec le médical, etc. C'est un peu compliqué. Je pense que il y a dans les sociologues du sport en prison, moi j'en connais hein, les travaux de un. Là, je pense que il y a peut-être des formes de proximité plus importantes et je pense qu'il y a des profs de sport que ça doit intéresser de lire de la sociologie du sport en prison. Sinon, sans plus. Je dirais. Mm. Par contre, ça intéresse de l'administration pénitentiaire centrale, voilà, qui ça, tient très au courant.
C'est ça qui est intéressant, oui. Ouais. Oui, c'est ça qui est intéressant, oui, quand même.
Et oui, en ce qui me concerne, effectivement, avec l'administration pénitentiaire, l'écart... comme le dit Grégory, hein, il y a un écart quand même assez fort entre leurs préoccupations et les nôtres. Par contre, dans ces EPM, il y a des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, il y a tout un corps qui est un peu plus sensible, enfin moi je le ressens comme ça, qui est un peu plus sensible à nos travaux, qui moi me demande de faire des points d'étape réguliers sur ces choses-là. Après, en ce qui concerne l'ouverture en détention, effectivement, comme le dit très bien Grégory, moi j'ai eu aucun problème pour y rentrer. J'y fais un peu, entre guillemets, parce que j'y veux, mais bien sûr, il y a des règles. Mais si je veux aller faire un entretien avec un jeune, on ne va pas me freiner. Si je veux l'observer, etc., on ne va pas me freiner. Je les encadre dans les pratiques sportives, on ne me freine pas. J'ai commencé à avoir des problèmes à partir du moment où j'ai assisté à des choses auxquelles je n'aurais pas dû assister. Mm-hmm. Puisque restant longtemps dans une détention, j'ai pu saisir des moments de régulation de l'ordre, pas tout à fait officiel, pas tout à fait... Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir quelques problèmes avec certains surveillants de l'administration pénitentiaire en tant que témoin malvenu, puisqu'ils ne savaient pas, comme ils ont une distance assez large avec les recherches, ils ne savent pas ce que ça va donner, à qui ça va être divulgué, etc. Mais à part ça, moi, je rentre avec mon dictaphone en détention, je fais des entretiens avec les mineurs avec mon dictaphone, etc. J'ai aucun problème à ce niveau-là. Ouais. Je pense que la double casquette, je suis rentré comme animateur sportif au départ. Ouais, il va faire du sport, il va faire du sport à nos jeunes, c'est cool, ça met des heures en plus dans les trucs, c'est bien. En plus, c'est le dimanche et tout, machin. On n'avait rien trouvé jusque-là pour le dimanche, c'est bien. Mais petit à petit, quand ils ont commencé à me questionner, mais pourquoi tu fais des entretiens avec les jeunes après? Pourquoi tu viens quand c'est pas à toi d'encadrer? Pourquoi tu pratiques avec? On ne comprend pas. Donc là, j'ai commencé à dire effectivement que je faisais une recherche. Que ce soit les jeunes eux-mêmes qui me posaient des questions donc j'ai été très clair là-dessus que j'avais une double casquette, mais cette casquette d'encadrant sport m'a ouvert beaucoup de portes, oui, je pense réellement, quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travaux comme ça qui ont une méthodo ethno, bon, les travaux vachement connus de Vacan, etc., qui pour intégrer le milieu de la boxe est devenu pratiquant de boxe. Il y a ce côté de dire il y a l'observation participante qui permet un accès à des pratiques sur lesquels on n'aurait peut-être pas accès.
Oui, mais là, il faut se criminaliser, donc là, il faut aller jusqu'au bout.
Comme Vincent, pas encore, on verra.
Très bien, donc je vous propose de prendre une petite pause de 2 minutes et rapidement passer à l'accueil de Gaël de Peretti du collectif, Sauvons la statistique publique. Donc Gaël de Peretti, statisticien à l'INSEE, dans 2 minutes.